Permettez ici une petite parenthèse. Quand on m'a communiqué au Canada le désir que je participe à un atelier durant cette semaine, la réponse a été transmise par voie téléphonique transatlantique. Et en arrivant ici et en regardant le programme à la page 12, j'ai l'impression qu'il y a une partie du message qui est tombée en mer. Et pour ne pas vous induire en erreur, parce que le titre est « Dégustation de quelques vins concernant le couple et la famille », plusieurs doivent se demander s'il faut venir là tout équipé avec vin et fromage. Ce n'est pas le cas. C'est le partage sur quelques vins nouveaux du Seigneur concernant le couple et la famille. Et précisément, je vous le livre en capsule, quatre questions qui seront posées et sur lesquelles il y aura des mini-témoignages, mais sur lesquelles on aimerait quand même avoir vos retours. La première question, c'est frères et sœurs, chez vous, dans votre famille, dans votre couple, l'amour du Seigneur et l'amour que vous échangez entre conjoints, parents et enfants, font-ils chambre à part? Deuxième question, par un minimum de vie de communauté, tendez-vous comme couple et comme famille au maximum de communauté de vie, c'est-à-dire de communautaire? Troisième question, l'obligation qui est rapportée dans Saint-Luc, quand Saint-Luc dit, cite Jésus, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à son conjoint, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors, la question, c'est cette obligation de préférer le Seigneur à son conjoint, à ses enfants, est-elle intégrée, totale et déclarée dans votre ménage et votre famille? Et enfin, quatrième question, frères et sœurs, connais-tu la nature et les bienfaits possibles d'une expérience nouvelle en Église, qu'on appelle un synode familial chrétien, animé par les parents et les enfants eux-mêmes? Et j'animerai cet atelier en compagnie de Dominique et Michel de Lauvin-Fosse. La deuxième grande option qui est nécessaire au renouveau de notre Église, c'est celle-ci. Le Seigneur le désire, que les lieux de recueillement et de prière se multiplient, que les églises et les chapelles restent ouvertes. Qu'on revive et ravive partout avec une foi et une ferveur renouvelées le culte à la présence réelle, la célébration eucharistique prolongée et l'adoration du Saint-Sacrement. Fermement convaincu que c'est d'abord et surtout là, dans le silence actif auprès de lui, que l'individu comme le groupe trouve sa voix VOIE et sa voix VOIX et peut se laisser transfigurer. Quelques conséquences pratico-pratiques de cette deuxième option, c'est qu'il faut nous reconvaincre que c'est vraiment en s'approchant de plus en plus de lui au Saint-Sacrement qu'on apprendra en Église comment s'approcher de mieux en mieux de nos frères et du monde. C'est une illusion que de croire qu'on va s'approcher de nos frères en s'éloignant du Seigneur, consciemment ou inconsciemment, avec les plus belles idées, les meilleurs prétextes. C'est un détour incroyable et conséquent. Il nous faut donc décider qui parle à qui? Qui donne à qui? Qui sauve qui? Est-ce Dieu qui parle, qui donne et qui sauve le monde, ou est-ce l'inverse? Si c'est le monde, alors écoutons-le. Partons de lui, plongeons dans ses problèmes, débrouillons-nous avec des pseudo-solutions, puis allons en parler à Dieu. Si au contraire, c'est Dieu qui veut parler au monde, qui veut l'éclairer, qui veut le guider, qui veut le libérer, qui veut le guérir, qui veut le rendre heureux, qui veut le sauver, et nous savons, nous, que tel est le cas, soyons donc conséquents, allons vers lui d'abord et surtout, écoutons-le bien, et ensuite seulement, allons vers le monde, conscients et confiants, et apportons-lui la lumière, la paix, la joie, l'amour dont il a besoin. Nos flèches de direction, de circulation, ont été tournées pendant la nuit, pendant notre sommeil. Il faut remettre le circuit dans la bonne direction. Ça part de Dieu, c'est lui qui est venu sauver le monde. Il faut aller chercher au bureau chef, il faut aller chercher auprès de lui, dans une activité intense entre lui et nous, la lumière, la force. Et après ça, en passant à travers nous, elle va se diffuser et elle va aller porter ce que, consciemment ou inconsciemment, l'Église, le monde cherche. Mes frères, mes sœurs, n'attendons pas qu'en certains lieux de notre Église, tout comme Marie-Madeleine, on entende de plus en plus répéter « On a enlevé le Seigneur, mon Maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Et pour nous, pasteurs, il n'y aura pas d'interpellation plus cruelle que de nous faire dire un jour « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » La deuxième conséquence pratique de cette option, c'est qu'il faut que le prophétisme et le merveilleux reprennent vigueur et place en l'Église. Le Seigneur avait prévu de toujours nous tenir en haleine, en alerte, sur le plan de l'Église à travers les siècles par deux moyens, le prophétisme de sa parole et le merveilleux de son agir. Or, nous avons développé une frousse, une peur, et on n'est plus porté, et on nous a peut-être plus éduqués à nous méfier des faux prophètes qu'à discerner et accueillir les bons prophètes. Le prophétisme en Église connaît un taux de mortalité infantile assez élevé. Et on procède un peu comme Hérode. Pour être sûr de ne pas manquer les faux prophètes, on les extermine le plus possible. De toutes les manières, il nous faut enfin découvrir les bienfaits du silence actif. Et je peux vous dire, mes chers amis, que quand je suis passé de cette vie hyperactive à une vie d'écoute devant le Saint-Sacrement, j'ai dû apprendre de A à Z comment s'asseoir devant le Seigneur, comment cesser de penser, de parler, de vouloir qu'il se passe toutes sortes de choses comme dans le reste du monde. Et je lui ai dit humblement, « Apprends-le-moi, Seigneur. » Puis il me l'a appris. Et je vous dis aujourd'hui que c'est l'endroit le plus puissant pour recevoir tout que d'aller s'asseoir devant Jésus au Saint-Sacrement. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Ce n'est pas le principe du dialogue. Oh, il se peut que le Seigneur fasse monter une phrase, une inspiration très précise. Mais il faut comprendre que dans le silence, il y a une grande activité d'irradiation entre lui et nous. Si on était tout près d'une bombe atomique, même si on n'entendait rien et on ne voyait rien, on serait irradié. C'est ce qui se produit devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur irradie sa puissance d'amour en nous, et cette puissance d'irradiation met en entrepôt en nous des lumières, des forces dont on aura besoin. Et je me demandais pourquoi le Seigneur ne nous rendait pas conscients de cette irradiation. Ce serait plus agréable de voir rentrer les réponses, puis les inspirations. Et le Seigneur m'a laissé savoir, non. Si tu en avais connaissance, tu les filtrais. Tu pourrais les diluer. Tu pourrais en discuter. Tout ça, crois-moi, entre en toi. Et quand tu quitteras la chapelle, tu verras jaillir de toi des réponses, des discernements, des forces, puis tu te diras, comment ça se fait que c'est en moi ça? C'est moi qui les avais mises d'avance en t'irradiant. Et ça a tout changé mon comportement devant le Saint-Sacrement. J'étais rendu à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que ça donne? Il ne se passe rien. Et j'ai découvert tout à coup qu'il se passait tout. Et le simple fait d'aller vers lui, même si on n'a rien à dire, rien à proposer, s'asseoir près de celui qui est l'irradiation parfaite de l'amour du Père dans l'esprit, ça vaut le coup. Troisième et dernière option, et je ferai très vite, c'est qu'en Église, si on veut qu'elle se renouvelle, les pasteurs, les fidèles, les bergers et bergères doivent retrouver au plus tôt le sens, le vécu, le goût et les bienfaits du vrai, de vrai communautaire chrétien. Nous parlons beaucoup et surtout depuis Vatican II de toutes sortes de types de communautés, communautés conjugales, familiales, religieuses, paroissiales, diocésaines, missionnaires, ecclésiales. Rassemblement ici ou là. Nous voulons former la communauté, mais hélas, nous nous retrouvons souvent dans des côtes à côtes, avec des cœurs fermés les uns aux autres et des bouches cousues. Nos adversaires, eux, c'est ce qui fait leur force, que ce soit les francs-maçons ou les marxistes, dès le début, ils obligent chacun de leurs adeptes à appartenir à une petite communauté, à une petite cellule, et les oblige à partager leur vécu de franc-maçon et de marxiste. Nous, hélas, ce que nous vivons avec le Seigneur s'enferme trop facilement dans nos petits coffres-forts, dans l'intimité de notre vie. Et on n'a pas été habitué à se désenvelopper spirituellement. Et le résultat, c'est que notre Église est multimillionnaire en communauté, mais hélas, trop pauvre en communautaire. Il faut donc faire un effort pour que le communautaire éclate dans l'Église. Et ça sera un grand bienfait. Ça va d'abord donner au peuple de Dieu une animation, une vitalité spirituelle toute nouvelle. Ça va multiplier les portes d'entrée du souffle de l'Esprit, ça va attiser l'amour divin, ça va nous aider à mieux discerner et à mieux agir. Second bienfait, ça va nous préparer à ce qui s'en vient, mes amis. Et ce que j'appelle le leadership spirituel de la base. Vatican II est une symphonie inachevée. Le plus sûr est fait, mais le plus dur est à venir. Le plus sûr en sortira. Le plus dur, c'est l'implantation dans notre corps nouveau post-conciliaire d'une âme et d'un esprit nouveau à la grandeur de l'Église. Le Seigneur s'est surtout servi, dans la première étape du renouveau institutionnel, de nos experts dans les textes dans les interprétations du Concile. Leur utilité a été grande, ils ont fait du bon boulot. Mais le Seigneur commence déjà à indiquer que pour la deuxième phase, qui est l'incarnation dans ce corps nouveau d'une âme nouvelle à la grandeur de l'Église, le Seigneur nous conduit à la porte du Père. Je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Et le Seigneur entend passer par des tout-petits et des simples pour nous révéler ce qu'il veut d'ici les prochaines années. Et ces petits et ces simples, qui ne sont pas nécessairement instruits et documentés, se heurtent trop souvent en allant vers certaines autorités à des portes qui ferment et qui ne les comprennent pas. Ils deviennent des orphelins spirituels et il faut leur donner des petites cellules dans lesquelles ils pourront communiquer ce que le Seigneur leur inspire, le voir discerner, se sentir encouragé et compris, afin que ce vin nouveau se déverse dans une Église toute nouvelle. Et je conclue. Mes frères, mes sœurs, ça a été un grand bonheur d'être avec vous ces jours-ci. Je définis souvent mon ministère comme le ministère d'un petit gars qui fait de la livraison. Mon bon papa m'avait donné 2 paquets à livrer. Je l'ai fait, au meilleur de ma connaissance. Je n'ai pas cherché à vous donner des exposés savants, mais à vous transmettre en petit enfant ce que le Père m'a appris comme un petit enfant. Je vous dis, en vous quittant, bonne chance à la nouvelle évangélisation qui est en cours dans votre pays. Puisse-t-elle rayonner dans toute la communauté européenne et à travers le monde. Mais je vous dis, dans le même souffle, peuple de Dieu, belge et européen, au livre de la foi que ton épiscopat vient de te donner et qui est un chef-d'œuvre, accompagne-le du livre de l'amour dont nous venons de parler, et complète-le du livre de la petitesse d'âme. Pour pratiquer la foi, il faut beaucoup d'amour. Pour être et devenir et rester petit, il faut beaucoup de foi. Et j'ajoute, Église, évangélise-toi toi-même encore davantage, deviens œuvre du Seigneur. Car l'Église que nous avons est devenu à certains égards un vieux vêtement qu'il faut cesser de croire qu'on pourra continuer à rapiécer. La déchirure s'aggrave en certains lieux. Et il faut cesser en Église de servir nos vins spirituels qui viennent de notre cru à nous. Si généreux qu'ils soient, il faut aller s'abreuver au grand cru du Seigneur et faire enfin du peuple de Dieu un peuple de sauvés et de l'Église qui les rassemble une Église qui sauve. Demandons cette grande grâce et je la demande avec vous. Que le Seigneur, encore une fois, crée en vous l'amour du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint.